Je vois que nous avons une question.
Oui. Enfin, si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué. Mais pourquoi on est ici exactement?
Fiston?
Second lieutenant Jack Jensen, West Point, diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur!
Bonjour à tous et bienvenue dans Lendemain de Culte, l'émission qui réveille tes...
Ah non, c'est pas qui réveille.
Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans Lendemain de Culte, l'émission qui revient avec humour et nostalgie sur les films de notre jeunesse, sur les films des années 90. Et ce coup-ci, c'est pas un film des années 90, c'est un film des années 80, fin 80, qu'on a quand même tous vu dans les années 90. Je veux bien sûr parler de Willow.
Ouh, pec, 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 pec.
Willow, réalisé par Ron Howard, joué par Val Kilmer, Warwick Davis, et sorti en 1988. Alors ce soir, effectif réduit, je serai accompagné de Dim.
Salut, salut.
De Tristan.
Salut, petite équipe.
Et c'est tout. Alors ce soir, on va vous présenter le film, on va débattre rapidement là-dessus, et puis on fera quelques petites rubriques. On commencera par la rubrique de Tristan sur les anecdotes. Ensuite, ma rubrique Fred et Jamy sera annulée et reportée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de science dans ce film. On va plutôt faire les actualités musicales, tout ce qui est sorti à l'époque. Et enfin, on terminera par un petit jeu organisé par Dimitri.
Yes.
Ensuite, on s'écoute la bande-annonce. Ok.
The omen is true.
Where is the baby?
My children found this baby alone by the river.
This child is special.
This baby will not destroy me.
Find the child!
Time is running out.
Elora Dell has chosen you to be her guardian.
Me? You need a warrior for a job like this.
I'm a nobody.
George Lucas and Ron Howard bring the epic adventure to new heights.
We need your help.
For the first time ever on Blu-ray. Fully restored in stunning high definition. With new bonus features.
Voilà, magnifique bande-annonce.
Ah oui.
Alors, je vais tout de suite vous demander ce que vous en aviez pensé quand vous étiez petit. Et je vais commencer par toi, Dim.
Bah écoute, c'est un film que j'ai pas mal vu quand j'étais gosse. Je pense qu'il passait pas mal sur genre M6 ou TF1. Et c'est typiquement le genre de film d'ailleurs qui passe plus du tout, je trouve, sur les grandes chaînes nationales, même sur la TNT. Alors que, enfin moi, j'ai le souvenir de l'avoir vu plein de fois. Et comme j'avais pas la cassette chez moi, clairement, il devait passer en boucle. Et j'adorais ce film. C'est un bon souvenir de mon enfance. Je l'ai vu, ouais, j'ai dû le voir, je sais pas, au moins 6 ou 7 fois quand j'étais petit. Et voilà, il y a de l'aventure, il y a tout. Et en tout cas, à l'époque, j'aimais beaucoup, beaucoup ce film. Ça fait très longtemps que je l'avais pas revu. Voilà.
Et bah, c'est cool ça. Tristan ?
Ça te fait chier, à mon avis ?
C'était cool.
Oh, il est déjà agressif direct.
Non, mais je vois bien, vu que c'est moi qui présente cette semaine, il est jaloux, là. Il est plein de haine.
Ouais, il essaie de devenir calife à la place du calife.
Merci, Dimitri. Tu peux te taire. Tristan, à ton tour.
Écoute, moi, j'adorais ce film quand j'étais petit. C'était un peu l'épopée fantastique familiale qu'on se regardait avec les parents. Peut-être une fois par an. Et c'était une cassette enregistrée, je me rappelle, c'était écrit Willow 3-4 fois dessus, je sais pas pourquoi, on avait peut-être effacé à un moment donné. Des chouettes souvenirs, et puis un peu, voilà, c'était un peu le film qui m'a amené vers le cinéma, quoi. En plus des Star Wars.
Ah ouais, carrément.
Ah ouais, ouais. Ouais, je pense que je le regardais autant que les Star Wars et les Retours vers le futur.
C'est un film qui t'a fait aimer le cinéma, quoi.
Ouais, ouais, vraiment, ouais.
Bon, bah c'est bien.
Si je te fais
ouais,
chier.
C'est bizarre, c'est mettre l'ambiance, ce présentateur.
Bon, bah,
ah ouais, c'est chouette.
Je suis content.
C'est ultra chouette. Merci Tristan.
Et toi, Jonathan?
Et ben moi aussi, je l'avais vu quand j'étais petit. Alors, Non, je ne l'ai pas vu quand j'étais petit, je l'ai vu quand j'étais moyennement petit, parce que je l'ai vu assez tard. En fait, c'est des potes qui n'arrêtaient pas d'en parler, qui connaissaient les répliques, tout ça. Et moi, j'étais un peu mis de côté, parce que je n'avais jamais vu le film. Et je me suis décidé assez tard à le regarder. Et je me souviens que je commençais à rentrer dans ma période adolescente. Et du coup, je me suis dit, ouais, tu sais, par provocation, je suis sûr que je ne vais pas aimer. Et finalement, ça a été une grosse claque. J'ai vraiment adoré. Et je regrettais de ne pas l'avoir vu plus tôt. Donc oui, je l'ai vu quand j'étais plus jeune, on va dire. Je pense que j'avais 11-12 ans. Et j'avais bien aimé. Mm-hmm. J'avais bien aimé.
C'est formidable.
Ouais, c'est cool.
Est-ce que c'était qui? C'était Benoît qui t'avait fait regarder?
C'est Benoît et Kevin, les deux.
Je pense en tout cas que ça intéresse beaucoup les auditeurs.
Ah, ça va.
N'empêche qu'ils nous écoutent.
Bah ouais,
deux auditeurs assidus. Alors on le fait de
Benoît nous écoute?
Je sais pas, mais en tout cas.
Mais bon, peu importe, s'il nous écoute, un petit coucou.
Alors, on va tout de suite passer au résumé du film. Et qui de mieux pour résumer ce film que celui qui vous l'a imposé, c'est-à-dire bah, moi-même. Et oui, c'est moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film, Willow? La cruelle reine Bavmorda, c'est dur à dire, règne sur le peuple des Daikini. En fait, les Daikini, c'est nous, c'est les personnes normalement constituées.
J'adore comment t'essaies de faire du gros politiquement correct. Les hommes quoi.
Dans le Hobbit, c'est les personnes de taille normale. Ils sont appelés comment déjà?
Les humains.
Le
peuple humain.
Ah ouais.
Bah du coup les Daikini, c'est le peuple humain. Lorsqu'une prédiction annonce la naissance imminente d'une princesse qui la détrônera, donc la méchante reine. Cette dernière donne l'ordre de tuer ce nouveau-né. Et ce bébé, en fait, il arrive à s'enfuir à l'aide
d'une sage-femme.
De la sage-femme, exactement. On fait des gros bisous aux sages-femmes.
Big up.
Gros béco.
Et elle est, ce nouveau-né est recueilli par Willow, qui est un homme de petite taille, qu'on appelle les Nelwyn dans ce film, et qui est chargé de ramener l'enfant au pays des Daikini, les humains. Voilà.
Yes! Merci d'avoir lu l'arrière du DVD.
Ouais, on sentait pas du tout que c'était lu. Hein.
Non, c'est dans ma tête. Tout est dans ma tête.
Magnifique improvisation.
Exactement. Alors, on va tout de suite passer à la scène qu'a choisie Dimitri. Elle intervient assez tard dans le film. Elle intervient à une heure du film. Du coup, j'espère que Dim va nous remettre...
Ouais, je vais faire très court quand même.
Voilà.
Ces chevaux sont bien trop rapides pour nous. On n'a plus qu'à suivre leurs traces. Eh ben, on n'est pas sortis de l'auberge. Et puis même si on les retrouve, ils vont nous attraper, nous planter dans une cage, nous torturer pour finalement nous dévorer.
Alors, tu proposes qu'on rentre à la maison?
Non, pas une fois qu'on rigole.
D'accord. Bon alors, on y va. Oui.
Je m'inquiète pour Elora. Ah, on dirait qu'elle est malade.
Vite, répète l'incantation que je t'ai apprise.
Tana, Juata. Ah, je me rappelle jamais le mot du milieu.
L'Octuo. C'est le mot qui invoque la transformation.
Bon, c'est à une heure de film, il y a eu moult péripéties. Notre héros Willow, il est escorté par Val Kilmer, qui joue une sorte
c'est
de...
escort girl. Les escort girls.
Val Kilmer dans le film, c'est une sorte de guerrier, voilà. C'est un peu les bras quand Willow serait le cerveau, on peut dire un peu ça comme ça. Et faire référence un peu au Seigneur des Anneaux, tu vois, il y a Frodon et du coup il y a Viggo Mortensen, je sais plus son personnage dans le film, et voilà, qui l'escorte, qui l'aide à aller au bout de son
aventure. Aragorn, c'est le Aragorn.
Aragorn, voilà. C'est un peu le même rapport, sauf que Val Kilmer dans le film au début il est un peu teubé, enfin. T'as l'impression qu'il s'en fout de tout et finalement au fur et à mesure il rentre vraiment dans la quête et
c'est un mercenaire
veut aider,
en fait. Un mercenaire voleur, un truc comme ça quoi.
C'est ça, il a pas vraiment de patrie, il y a une guerre qui se trame et lui il est un peu en dehors de ça. Et comme il va se prendre d'attachement pour Willow et pour la petite, il va rentrer dans le truc. Et là en fait, c'est un moment où Willow et Val Kilmer du coup se font kidnapper par les guerriers de la Grande Reine. Et il y a deux petits personnages qui les accompagnent aussi depuis le premier tiers de l'histoire. Alors dans le film c'était les Brownies.
Les Brownies, ouais.
En fait c'est un petit peuple, alors là c'est pas des nains, c'est des Lilliputiens, voilà. Et c'est marrant parce qu'à un moment donné il y a Willow qui est capturé par cette bande là. Et ça fait un peu comme Gulliver, il est allongé par terre et il a des cordes partout sur lui. Et du coup, on a l'impression que Willow c'est un géant alors que pour nous on sait que c'est un nain. Et du coup, il y a trois niveaux de taille dans le film d'échelle. Et je trouve que c'est un petit truc assez sympa qui est bien réalisé.
Et là, pour une fois, on peut dire que c'est un petit nain. Parce que lui-même le dit, il est petit de chez les nains.
Willow dit que pour sa population, il est petit. Donc, ouais, effectivement, c'est un petit nain. Et c'est pas une lapalissade. Et non, j'aime bien ces deux petits personnages là, les Smarties. Enfin, c'est Brownies, mais ouais, mais comme ils sont tout petits, je préfère les appeler les Smarties.
Les M&M's.
On peut les mettre dans sa poche, c'est pratique.
Les pèses.
Et du coup, elle est. Donc, il y a toute une population, mais il y a deux Smarties en particulier qui accompagnent le héros. C'est deux frères, et je les trouve marrants. Ils apparaissent, ils ont quelques petites répliques marrantes tout au long du film, et la relation qu'ils ont entre eux, elle est bien. Il y en a un qui est un peu plus teubé que l'autre, un peu plus foufou, et il y a des bons dialogues, je trouve, à chaque fois. Pareil, à un moment donné, il y a un autre extrait où ils s'embrouillent un peu avec Val Kilmer, et c'est marrant parce qu'ils font genre, si tu veux, nous on te tape, on n'a pas peur de toi, alors qu'à un moment donné, ils se retournent, ils leur font boue, et puis là, ils partent à 100 mètres. Et il y a plein de petites séquences comme ça que je trouve assez marrantes. Et voilà, et c'était aussi pour mettre le doigt sur le fait que le film, il y a quand même un peu d'humour, il y a quand même pas mal de passages assez drôles, je trouve. Et voilà.
C'est vrai qu'il y a plein de personnages, et il y a plein de personnages intéressants, en fait.
Les seconds rôles sont travaillés, je trouve.
Ouais.
Il y a un autre passage un peu assez drôle où t'as le druide, un peu le Gandalf, mais après, c'est Seigneur des Anneaux, forcément, ça a été écrit il y a très très longtemps. On peut penser que c'est un peu inspiré du Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a quand même... Donc, Willow, il fait partie d'un peu comme les Hobbits, d'une confrérie, là. Il part en quête un peu seul. Il a un pote qui l'accompagne au début, plus les deux nains. Enfin, les deux Smarties, là. Il y a le chef de sa tribu qui est un peu magicien. Il peut faire penser à Gandalf. T'as Val Kilmer qui fait penser à Viggo Mortensen. T'as quand même beaucoup de choses ressemblantes. Mais bref, tout ça pour dire, à un moment donné, il y a une scène marrante, ouais, c'est genre le Gandalf de la population, là. Il balance un oiseau en l'air magique et qui part d'une direction. Et en fait, c'est la direction du village. Donc, genre, il fait demi-tour, il rentre chez lui et fin de l'histoire. Et il fait, ouais, ça marche pas à tous les coups, je sais plus ce qu'il dit, mais allez pas dans cette direction, allez dans cette direction-là. Et je trouve que cette scène était assez marrante. Il y a plein de petites touches d'humour comme ça, c'est bien trouvé.
Tout à fait, ouais.
Voilà, c'était tout pour moi.
Tu voulais dire quelque chose, Tristan ?
Non, bah en fait, je disais juste que c'était plutôt les deux petits Lilliputiens qui amenaient l'humour du film plus que le reste. Enfin, j'ai l'impression que le reste, c'est plutôt de l'humour de situation que du dialogue. Je sais pas si.
Oui. Ouais.
Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.
Merci.
C'est cool.
Le mec, il va tout casser, quoi. Il a envie de casser ce soir.
Non, pas du tout, c'est très intéressant ce que tu racontes, n'hésite pas à intervenir.
Mais pour revenir sur ces Lilliputiens, je trouve qu'ils sont pas très bien faits pour le coup, par contre, au niveau du rétrécissement.
Ah, je trouve pas, moi. Et d'ailleurs, alors, par contre, je sais pas pour vous, moi j'ai vu la version remasterisée. Alors, je sais pas, au tout début du film, est-ce que vous avez eu le logo LucasArts, le logo récent ?
Oui, oui, oui.
Vous avez vu aussi la version remasterisée. Il y a beaucoup de... Les plans larges, un peu, ont été retravaillés graphiquement et tout ça. Et moi, je trouve qu'elle a vachement de la gueule, cette version-là.
Ouais, ouais. Il y a juste un passage au niveau des effets spéciaux qui m'a pas trop plu. C'est le passage où il y a le troll, là, avec le monstre à deux têtes.
Ouais, pareil. Mais surtout le troll. On voit que c'est un costume.
Oh, mais ça passe encore les costumes, mais je trouve que les Lilliputiens, ils étaient pas forcément bien réussis, même dans cette version remasterisée. Ah bon, enfin, tu le vois bien,
ça
quoi,
pas choqué.
C'est un peu mal calé parfois, quoi. Non ?
C'est ton côté perfectionniste.
Non, mais par exemple, dans les mêmes années, c'était Chérie, j'ai rétréci les gosses, les perspectives étaient un peu mieux faites que celui-ci.
Et d'ailleurs, petit point commun, Joe Johnston, réalisateur de Chérie, j'ai rétréci les gosses, est le producteur de Willow.
Un des producteurs, non ? Parce que George
et juste,
aussi,
donc, tant qu'on est dans la distribution, je voulais parler de Willow, c'est un truc de fou. Il y a quand même James Horner à la musique.
La musique, je sais pas si on va y revenir,
elle est
énorme. On peut en parler.
Elle est dingue.
Elle est ouf.
Joe Johnston, donc, qui est quand même le mec qui a fait Jumanji et Chérie, j'ai rétréci les gosses, donc quand même deux films assez cultes de notre enfance. Mm-hmm. T'as aussi
James Horner,
George Lucas,
tu peux le poser,
scénariste.
James Horner, c'est la musique de Titanic et Braveheart.
Ouais, qui est décédé, ouais, je crois, l'année dernière.
Ouais, oh, il y a pas longtemps. Salut l'artiste.
D'ailleurs, pour lui rendre hommage, on va écouter un petit extrait de la musique de,
merci,
de Willow.
Voilà, magnifique musique. Et tant qu'on était sur la distribution, on n'a pas dit, il y a aussi George Lucas au scénario. Et quand même, bah, le réalisateur, on n'a pas encore vraiment parlé, mais Ron Howard, qui a fait quand même beaucoup de très bons films. Je trouve que c'est vraiment un réalisateur sous-côté. J'aime beaucoup ce... Et puis à chaque fois, il fait des films vraiment différents, quoi. Il n'y a aucun lien entre toute sa filmographie. Et après, bon, il y a forcément de temps en temps, ça retombe un peu, c'est pas ouf, mais...
Bah, dernièrement, je sais pas trop ce qu'il a fait.
Solo, Star Wars Solo, il a fait le spin-off de Star Wars.
Ah non, je crois que c'est pas lui, là.
Si, ça c'est Ron Howard, le dernier, là.
Sérieux ?
Solo Story, c'est lui, ouais, tout à fait.
Ouais.
Alors, à l'origine, c'était pas lui, mais il a dû reprendre les rênes.
Ah oui, j'ai pas vu, mais il paraît que c'est pas terrible. Mais après, si le tournage a été compliqué, ça peut être une explication.
Ça aide pas.
Mais moi, je pense, dernièrement, il a fait Rush, donc un film sur la Formule 1, et c'était vachement bien pour le coup.
Ouais, il a fait aussi Apollo 13.
Ah oui, là, ça remonte un peu.
Ça remonte, mais moi, c'est un film marquant, justement, de notre jeunesse aussi, qui me fait aimer les films et l'espace. Le mec, il fait tout.
Par contre, les fusées, j'aimais pas.
Les fusées. C'est comme les Smarties, hein. Ça se voit que c'est incrusté, hein. C'est pas bien fait. Merci Dimitri, on va pouvoir passer à l'extrait suivant qui est le mien. Et c'est parti.
Oh, Sorge. Oh là là. Je t'en prie, éveille-toi de cet odieux sommeil. Il me prive de ta beauté. La beauté de tes yeux.
Un geste crétin et tu seras vraiment une femme.
Tu es mon soleil, tu es ma lune, mon ciel étoilé. Loin de toi, je suis prisonnier des ténèbres. Je t'aime.
Qu'est-ce que tu fais ici?
Ton pouvoir m'a ensorcelé, il me laisse sans défense. Allez, viens, je t'emmène. Ce soir, laisse-moi te vénérer comme une déesse, viens dans mes bras.
Ne t'approche pas!
Je t'aime, Sorcha.
Arrête de dire ça!
Est-ce que je peux empêcher mon cœur de battre? Jamais il ne s'était emballé comme ça.
C'est la peur.
C'est l'amour.
Tu veux que je le calme? C'est facile, je peux te tuer.
Comparé à l'amour, la mort n'est qu'un détail.
Alors j'ai choisi cet extrait pour plusieurs raisons, parce que déjà j'aime bien le couple qui se forme, on l'entend dans l'extrait en fait, le couple entre la fille de la méchante et Val Kilmer, Mad Martigan, et aussi parce que en fait j'avais pas le souvenir que Mad Martigan, je le trouvais un aussi bon héros en fait. J'ai vraiment kiffé ce personnage,
ouais,
je le trouve
chouette.
Vraiment cool. Il est à la fois complètement désinvolte, à la fois il arrive à se raccrocher à une cause et on se sent sincère. Au début, on le sent pas du tout ce mec-là, et au fur et à mesure du film, on sent qu'il est de plus en plus sincère et honnête. Et je trouve que ça crée quelque chose, ça crée un lien. On le voit aussi tomber amoureux, c'est rigolo, quoi, parce qu'au début, on s'y attend pas du tout sur ce personnage-là. Et puis en plus, il se bat super bien, c'est un vrai héros, quoi. C'est pas juste... Il est pas juste là pour faire de la figuration ou enfiler des perles, comme
je jamais dit.
Non, je sais pas ce que vous en avez pensé.
Ouais, moi, non, mais c'est vrai que les personnages en général sont attachants quand même dans ce film. Et y a, particulièrement, j'ai trouvé que le bébé était bien fait à chaque fois que la caméra faisait un plan sur.
Peut-être t'aimes bien les bébés. Hein.
C'est un vrai bébé, hein, c'est
à
pas.
À l'inverse, normalement, j'aime pas les bébés dans les films parce que c'est trop chiant. Mais là, là à chaque fois, les.
Mais t'aimes pas les bébés en général.
Oui, en général, ouais. Non, bref. Je voulais me lancer dans quelque chose, mais je vais pas le faire.
Ouais, non, donc... je vois ce que tu voulais dire. Tu les aimes bien au congélo ou un truc comme ça.
Non, ce que je veux dire, c'est que les gros plans, tu vois, du bébé sont vachement expressifs. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un moment donné, il y a la souris, à un moment donné, il y a le pleur, il y a la surprise, et j'avais trouvé ça vachement bien fait.
Non, mais c'est vrai.
Ouais, ça m'a marqué parce que je me rappelais pas. Ah, c'est vraiment, ça illustrait bien à chaque fois la scène, quoi.
Non, c'est vrai, hein, t'as raison.
Et pour revenir juste sur le personnage de Mal Martigan, plus sur Val Kilmer, du coup, qui le joue, je trouve que c'est quand même un bon acteur, mais tous ses rôles un peu marquants, c'est des seconds rôles. Il n'a jamais eu vraiment un film où c'est lui la tête d'affiche et le film a marché. Je pense, par exemple, où il y a Willow, où c'est quand même plutôt le nain qu'on voit le plus dans le film. Hit, où c'est un peu le bras droit de Robert De Niro dans le film. Il a un rôle important, mais c'est quand même un second rôle. Top Gun, où clairement, là, c'est le méchant, même si à la fin, il devient un peu pote avec Tom Cruise, mais voilà, c'est un peu l'antagoniste de Tom Cruise.
Il a jamais eu de premier rôle, en fait, de toute manière, non ?
Bah, il y en a eu, je me souviens d'un film, je sais plus le nom, où c'est un peu en mode espionnage et tout, où il a le premier rôle, mais c'est pas un film qui a marché à fond, quoi.
C'est pas Hollywoodland ou un truc comme ça, là ?
Non, c'est un autre truc, ouais.
Et ouais, c'est vrai. Mais c'est dommage parce que cet acteur, moi, je l'aime bien, et il a un peu mal tourné, et d'ailleurs. On lui souhaite un bon rétablissement parce qu'apparemment il est très malade.
Oh, voilà. Bon rétablissement, Val.
Valou.
Mais et par contre, il y a un truc, c'est marrant. Il l'appelle Mad Mardigan. Et moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il l'appelait par son prénom et nom de famille à chaque fois. Mais en fait, non, tout est attaché. C'est Mad Mardigan, c'est son prénom, quoi. C'est bizarre, non?
Moi aussi, je pensais que c'était Mad, son prénom.
Ah, moi, je pensais que c'était une forme de politesse des nains, en fait. Il disait le prénom plus le nom à chaque fois.
Mais oui, c'est trop bizarre. Mais moi, c'est tout le long du film, je fais... C'est bizarre, en fait, il l'appelle prénom-nom à chaque fois. Et puis, j'ai regardé, c'est que son prénom.
Ah, d'accord. Ah ouais. Bon.
Pour la petite histoire.
On aura appris un truc.
Petite histoire. Et sinon, du coup, je voulais en profiter aussi pour parler de ce petit couple que je trouve rigolo de voir se former à l'écran. Je sais pas ce que... Non.
Bah, on s'en fout. Là, j'ai quand même un petit bémol, si je puis me permettre. C'est que, du coup, alors le couple, on n'a pas trop expliqué, mais donc, Mad Martigan, il va commencer à devenir amoureux d'une fille du camp d'en face. En gros, c'est la fille de la reine qui cherche à assouvir le peuple et à tuer l'enfant. Au début du film, elle est vraiment avec sa mère, c'est-à-dire que. Elle veut tuer l'enfant, on comprend qu'elle a déjà fait d'autres meurtres sur des enfants, elle participe à tout ça. Et juste parce qu'elle rencontre Val Kilmer, il y a un petit flirt. Et là, tout de suite, elle deviendrait la sainte Nitouche, je suis amoureuse, et je trahis ma mère, et limite, j'aide à tuer ma mère. Et ça se passe en rien de temps, quoi, dans le film.
Mais peut-être qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle faisait le mal et qu'elle avait juste besoin de la petite étincelle pour aller dans les bras de quelqu'un et faire le bien, tu vois. Elle avait besoin d'un Mad Martigan.
Ouais, peut-être.
Ouais, il y a un petit indice là-dessus, quand même, dans le film, où je crois que c'est le mec, c'est qui ? C'est le chef de l'armée, là, de la sorcière, qui lui dit justement à la sorcière, elle vous trahira, votre fille.
Ouais.
Oui, c'est dans la prophétie.
Ouais, c'est voilà, le prophète, tu vois. Ouais, donc du coup, ça colle, quoi, non ?
Et la sorcière dit, j'ai beaucoup plus confiance en ma fille qu'en vous.
Ouais, ouais, c'est juste. Planté. Alors que non.
Bah une prophétie, c'est une prophétie.
Ouais.
Bah ouais.
Harry Potter le sait bien.
Comment il s'appelait le mec qui avait dit que Mire allait tomber sur la France ?
Ah oui.
Paco
Rabanne.
Paco Rabanne, ouais.
Sacré prophète.
Ouais. Bah,
il avait dit qu'en 2000 ou je sais plus quand. Il l'avait avant, ouais.
Et voilà. Ce
sera la miss.
Ouais, ce que je voulais dire moi sur Mad Martigan, c'est que j'avais pas le souvenir que ce personnage était aussi plaisant à voir à l'écran.
Tu veux dire qu'il est beau gosse ?
Bah, il est beau gosse, enfin, je trouve, en tout cas pour les hommes. Je sais pas s'il est attirant pour les femmes. Dans tous les cas, moi j'ai l'impression que dans les années 90, les héros étaient surtout attirants pour les hommes plus que pour les femmes. Tu regardes Code Troussel ou Bruce Willis, Les femmes, elles aiment pas forcément.
Mais non, parce que dans les années 90, je pense qu'on se disait plus que l'idéal masculin pour une femme, c'était les mecs virils et tout. C'était un peu à l'ancienne. Et maintenant, on se dit, c'est des Ryan Gosling un peu plus, pas efféminé, mais. Un peu...
Ryan Gosling attire vraiment les femmes.
Bah, tu rigoles ou quoi? Mais demande à Ryan Gosling, tu
t'en. Bah, il est beau gosse, mais je pense qu'il y en a d'autres qui attirent beaucoup plus les femmes et qu'on n'y pense pas. Genre, le héros de Sherlock Holmes. Je sais plus comment il s'appelle là.
Robert Downey
Jr.
Non, Benedict.
Ah oui, bah non, beaucoup moins, je pense.
Benedict Cumberbatch.
Ah ouais. Moi, ouais, je suis sûr qu'il est plus attirant pour les femmes. Parce que nous, on a pas forcément la même vision des choses.
On va faire un sondage sur Twitter. Ouais. Quel est l'acteur
Jon Snow, Kit Harington, il fait tomber tout.
Oui, bah là, oui. Bah oui, mais il est pas en mode viril à la Kurt Russell. Oh. Il est rasé de près.
Bah, c'est ce que je viens de dire. Kurt Russell, tout ça, lui, il est plus.
les gars, vous dites la même chose.
Bah oui, c'est ce que je dis.
C'est ce que j'ai commencé par dire. Alors ensuite, t'es en train de.
Non, et moi, ce que je dis, c'est que c'est la vision des producteurs qui a changé. C'est-à-dire que. C'était pas plus pour les mecs.
C'est exactement ce que je voulais dire. Tu m'as dit en disant non.
Chers auditeurs, voici un débat type Joe versus Dim où ils disent la même chose, mais ils ne se comprennent jamais. C'est génial.
Non, mais c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que dans les années 90, le héros, en général, c'était un beau gosse, mais dans la vision des hommes. Et je trouve qu'il y a un petit virage qui s'est effectué à la fin des années 2000 où c'est plus la même chose. Et typiquement, Val Kilmer, oui, moi je le trouve beau gosse, mais je suis pas sûr qu'il soit réellement beau gosse aux yeux. Enfin, je pense pas que les femmes le trouvent plus beau gosse que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Par contre, toi, tu pourrais craquer pour lui.
Ah, moi, j'ai craqué pour lui.
Mais d'ailleurs, son hygiène augmente au fur et à mesure du film. Au début, il a des dents toutes pourries, et puis très vite, elles deviennent blanches, les dents.
Je sais pas si... J'avoue, je me suis dit, putain, au Moyen-Âge, ils avaient un bon dentiste.
C'est à force de manger des racines noires qui donnent au bébé.
Bah oui, c'est ça. On mange beaucoup.
Et vous avez remarqué, c'est quoi les racines noires? En fait, c'est des.
C'est de la vanille.
C'est de la vanille. Ouais, des gousses de vanille. Voilà, voilà.
Superbe. Très belle anecdote.
On va pouvoir passer au dernier extrait. C'est l'extrait de Tristan. Et c'est parti.
Ce n'est pas une armée.
Non, cache-toi. L'incantation, protège-toi.
Pourquoi?
Fais-le vite.
Nous venons chercher Elora Danan.
Vous osez me défier? Vous n'êtes pas des guerriers. Vous êtes des porcs! Vous êtes tous des porcs! Des porcs! Des porcs!
Alors donc on est arrivé au moment du film où c'est la bataille finale qui se prépare. Et donc tout le monde arrive, enfin toute l'armée arrive en face du château de la méchante sorcière, qui d'ailleurs ressemble fortement à la sorcière de Disney, non?
Ouais.
De Blanche-Neige, ouais. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de petites inspirations, comme on disait, Seigneur des Anneaux, Hobbit, Blanche-Neige, il y a pas mal de références comme ça. Et donc ce passage-là, justement la sorcière transforme tout le monde en cochon, en porc, et... J'étais un peu déçu de revoir ce passage, je sais pas vous, mais j'avais l'impression qu'il y avait un morphing en fait du visage qui se transformait au fur et à mesure jusqu'en cochon. Et finalement, c'est toujours coupé et à chaque fois, c'est un nouveau maquillage, etc.
Trouve exigeant parce que. Après, oui, contre... le morphing dure pas très longtemps et j'ai l'impression que sur une ou deux secondes, t'as le début de.
Ouais,
morphing.
Peut-être, ouais. Mais j'avais en mémoire que c'était un passage beaucoup plus marquant et plus effrayant. Et au final, ça m'a moins marqué cette fois-ci. Par contre, en parlant de morphing, il est très bien utilisé justement quand Willow doit changer la... Donc, on n'en a pas parlé de ce personnage. Il y a c'est une magicienne, en fait. Donc, la gentille sorcière, quoi. Qui les suit tout le long du film et qui a été transformée en un animal. Et au fur et à mesure, Willow essaie de la remettre en forme humaine. Et là, justement, dans le final, il la transforme en autruche, puis en tigre, puis en homme. Et puis là, ça, c'est fait sous forme morphing, en fait. Et c'est... Là, par contre, c'est vachement bien fait.
En termes d'effets spéciaux, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que tu disais que les petits Smarties c'était mal fait. Moi, je trouve
les
que c'est
bien. Les petits Smarties, mais bordel.
Le truc du morphing avec le qui se transforme en cochon, je trouve que ça va. Par contre, quand la reine sorcière elle se transforme en lion, en autruche et tout, je trouve ça super mal fait pour le coup.
Ah oui, non, mais par contre, c'est une pure technique de morphing qui a été utilisée juste dans le film, quoi. Ce qui se faisait rarement.
Mais non, c'est pas morphing, c'est quand c'est vraiment le visage qui change avec sans effets spéciaux vraiment, enfin c'est ouais. Du maquillage comme Total Recall, tu vois quand Schwarzenegger ça il arrive plus à respirer, on voit son visage qui change, les yeux qui sortent, pour moi ça c'est du morphing.
Le morphing c'est justement ce changement avec des techniques de d'ordinateur qui est aussi utilisé dans le clip Black or White de Michael Jackson où justement les tu vois, les visages Jackson, se transforment d'une personne à l'autre en morphing.
C'est pas de l'ordinateur, là. C'est vraiment du maquillage.
Ah non. C'est... Ils ont mis deux visages de deux personnes différentes et le morphing, c'est justement l'effet spécial qui fait une transition entre
un visage et l'autre. Ah oui, mais lui, il parle de Black or White, tu penses à Thriller.
Oui. Non, c'est Black or White. Tu vois ?
Bah, du coup, je trouve que le morphing, de base, c'est nul. Parce que mais c'est moche.
On voit
l'effet spécial. L'effet spécial plutôt.
Oui.
Et alors que pour le coup, quand le visage se déforme au fur et à mesure, alors peut-être que ça fait plus artisanal et tout, mais je trouve ça, t'es plus dans le truc. Que là,
non, mais oui, d'accord.
Le long et tout, tu vois que c'est dupliqué par rapport à l'image.
Mais du coup, le maquillage était vraiment, vraiment super bien sur les cochons, mais moi je m'attendais vraiment à une évolution au fur et à mesure, ce qu'on n'a pas au final. Et par contre, le morphing, comme on dit, la technique de morphing, est utilisée au niveau de la transformation de la gentille sorcière, qui, au final, voilà, esthétiquement, on peut dire ce qu'on veut, mais techniquement, c'était quand même assez bien fait, en tout cas pour l'époque.
Mmh. Non, c'est sûr. Et j'ai trouvé un truc qui était bien aussi, c'est que, en fait, la sorcière, je sais plus, je crois que c'est les Smarties qui disent... oui, c'est une...
T'as décidé de les appeler les Smarties, en fait, c'est ça que tu dis.
Bah oui, bah, ils sont petits, c'est les Smarties. ils disent oui c'est une belle sorcière machin, c'est une belle femme, donc quand elle commence à se transformer on s'attend à voir une blonde
et oui,
voilà,
c'est excellent,
assez jeune et tout, et en fait c'est une vieille dame, et en fait elle explique bah comme je suis parce qu'elle était bloquée sur une île toute seule un peu mise à l'écart par la grande prêtresse maléfique et comme on devine du coup qu'elle est restée très longtemps sur l'île puisqu'elle est devenue vieille, elle est restée des années sur l'île, et j'ai trouvé ça ce petit effet
surprise. Ouais, c'est rigolo, ouais. Mais d'ailleurs elle dit oh ça faisait si longtemps que j'étais restée, est-ce qu'elle se reconnaît pas elle-même, et
je crois que c'est Willow qui lui dit ça fait mal.
Oh là là là, non, regardez pas dans le miroir tout de suite. Mais c'est vrai que les gérontophiles sont servis hein, sur la fin du film. Petite bataille entre deux vieilles là.
T'aimes ça, toi.
Allez, la boue.
Ok, merci Tristan.
Toujours avec la motivation quoi.
Ah non, mais sur cette blague gérontophile, je sais pas si on peut se quitter là-dessus quoi.
Bah tu peux enchaîner si tu veux.
Le podcast n'est pas fini. Hein.
Non, le podcast n'est pas fini, restez avec nous. On va tout de suite prendre la température et voir vos avis.
Vas-y, penche-toi.
On va prendre la température de vos avis. C'est parti, Dim. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup ce revisionnage ?
J'aime pas commencer, mais.
Ah bah non, bah merci,
oh
Tristan.
Là. C'est pas possible.
Non, vas-y, Dim.
Je pensais que ça avait mal vieilli plutôt, et que j'allais être déçu de le revoir, et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai pas revu depuis assez longtemps, parce que je m'attendais à voir le choc des images un peu baveuses et tout ça, et peut-être parce que c'est pas terrible, mais comme c'est la version remasterisée, c'est sûrement mieux passé. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, j'ai retrouvé les sensations que j'avais quand étant enfant. C'est bien joué, c'est rythmé. Il y a de l'humour, il y a de la grande aventure rythmée par une musique épique. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut aimer d'un film d'aventure. C'est bien joué. Voilà, c'est vraiment top. C'est pour moi, c'est mon film d'heroic fantasy préféré. je place ça largement. Les derniers, là, le Hobbit, j'ai pas du tout aimé. C'est tellement mieux de revoir un Willow. Le Seigneur des Anneaux, c'est entre les deux. Ça, pour moi, ça se regarde très bien. Mais Willow, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire de mieux. C'est vraiment l'aventure familiale. Tu peux regarder ça, tu peux avoir 60 ans, tu kiffes. Tu regardes ça avec ton petit-fils de 5 ans, il va kiffer aussi. C'est le top du top.
Est-ce que tu peux nous donner une note sur 6 specs?
Sur 6 specs.
6 specs.
Non, mais sur 6, 5,50. C'est vraiment très bien.
Pour info, le pec, c'est l'insulte ultime pour les vilains dans le film Willow.
Ok, ben c'était un très chouette avis. Merci Dimitri.
Voilà.
Quel est ton avis?
moi, c'est pas forcément différent de Dim. Effectivement, c'est un super film d'heroic fantasy. Par contre, moi, j'étais quand même un petit peu déçu des effets spéciaux. Et je sais pas si quelqu'un qui découvrirait le film aujourd'hui apprécierait. C'est peut-être ma seule réticence. Mais autrement, oui, l'aventure est vraiment excellente à suivre. Et les personnages, une fois de plus, sont vraiment attachants.
Je pense qu'il faut aussi faire un effort. Et quand on regarde des vieux films, se remettre dans le contexte et aussi passer sur des trucs. Parce que ça veut dire que sinon, dans 20 ans, c'est impossible de revoir des films que nous, on a kiffé dans notre enfance. Enfin, parce que forcément, ça paraît très vieux.
Mais...
Et ça peut être bien aussi, c'est du vintage. Et voilà, on voit que c'est mal fait, mais on apprécie le fait que ça soit mal fait. Tu vois ce que je veux dire?
Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais par contre, ça n'empêchera pas quelqu'un qui le découvrira de... Tu vois,
mais je trouve ça dommage.
Ça les transportera moins, forcément, puisqu'eux, ils connaissent plus les nouvelles technologies et les nouveaux effets spéciaux qu'on peut faire aujourd'hui. Nous, on a quand même la fibre nostalgique qui joue malgré tout dans le feeling, quoi.
Ouais, non, c'est sûr. Faudrait avoir l'avis de gens qui ont 20 ans.
Faudrait des personnes qui ont 15, ça, entre 15 et 20 ans, qui le voient et puis qui nous
genre,
disent vraiment...
Genre des personnes qui l'ont pas vu à l'époque. Genre, il y a
il
y a pas mal de personnes qui l'avaient pas vu à l'époque. On aurait pu avoir leur avis.
Ils sont pas là,
Et voilà, ils veulent pas venir.
Faut dire que dans notre crew, il y a pas mal de gens qui ont une toute petite culture cinématographique.
Je pensais que t'allais dire autre chose. Il y en a pas
mal. il y a que ça ce qui concerne. Les gens savent très bien qui c'est. Hein. Le pauvre, pensez à lui.
On salue.
Non, mais oui, c'est vrai. Bon, après, on met tous
chacun
sa culture.
Est-ce qu'on est objectif vraiment? Je sais pas. Mais oui, moi, j'aimerais bien le faire découvrir à plein de gens, il n'y a pas de souci. Allez, je dirais 4,5 sur 6. T'avais mis combien à 10?
Ah oui, je pensais que tu mettrais plus.
5,5.
Ah, quand même. Non,
t'as dit
même,
c'est le. C'est... Ah, attends, c'est... t'as dit les films qui t'ont fait.
On ne discute
cinéma,
pas les notes
c'est
des
Star
autres.
Star Wars et Willow. Et tu nous mets 4,5.
Non, mais
sur...
là, c'est quand même la note vis-à-vis de la qualité pure et dure.
D'aujourd'hui.
Bah oui.
J'entends.
Non, mais par contre, c'est joué. Mais on est d'accord, là, par exemple, le scénario, c'est quand même un scénario assez simple. Bah d'ailleurs, à la George Lucas, où c'est presque juste le voyage d'une journée, quoi. D'ailleurs,
ouais,
c'est le voyage
dans ce cas, Mad Max Fury Road, c'est pareil, c'est de la merde. Je veux dire, si derrière le background a été énorme avec des bons personnages.
Non, mais t'as une balance.
Je vais vous donner mon avis alors.
Attends, c'est un bon débat ce que tu dis là. Parce que...
Ah oui, bah, je donne mon avis vous allez débattre.
Non,
je suis pas d'accord avec toi, Tristan.
Il est très bon comme film Fury Road, mais son atout, c'est pas le scénario.
Mais oui, mais c'est pas grave.
On s'en fout.
Ça, c'est typiquement, tu vois, c'est typiquement...
L'argument des connards.
Mais c'est ce que j'allais dire. Je déteste entendre ça. Parce que tu peux voir un super film et avoir un scénario de merde.
Oui, mais c'est...
Faut pas tiquer là-dessus, c'est pas grave.
Mais c'est parce que je dis...
Les cahiers du cinéma... Attends, laisse-moi finir, Tristan, nom de Dieu.
Non, mais c'est parce que...
Les cahiers du cinéma, genre... Les cahiers du cinéma, ils vont avoir un truc genre... Une note sur 20 pour les personnages, une note sur 20 sur les décors, une note sur 20 sur le scénario. Et du coup, s'il n'y a pas une bonne note sur le scénario, le film va en pâtir. Alors que c'est complètement con de faire ça, parce que tu pourrais avoir un super film, même s'il n'y a pas un scénario exceptionnel, comme c'est le cas pour Willow ou Mad Max Fury Road, tu es quand même en face d'un bon film, donc tu peux oublier qu'il n'y ait pas un super scénario, c'est pas trop grave.
Les cahiers du cinéma font pas du tout ça, par contre.
J'en sais rien, mais sinon, tu sais, les critiques de base, ils font ça, quoi. Ils vont te ramener un film, leur mettre une note globale en mettant des sous-classements, alors que ça sert à rien.
Et oui, parce qu'un film, c'est composé de plusieurs corps de métier, et tu juges tous les corps de métier pour être objectif, justement.
Bah non, moi je suis pas d'accord avec ça.
Après, effectivement, t'as ta note de visionnage.
Moi, je suis pas d'accord avec toi non plus, Tristan, parce que pour que Mad Max Fury Road soit un bon film, il lui faut ce scénario-là.
Ah non, mais c'est pas ce que je dis.
Pénaliser le film parce que, justement, le scénario épuré, le fait que ce soit simple, contribue au fait que c'est un bon film. Donc pourquoi noter le scénario, ça n'a
pas mais j'ai pas dit que ma note c'était en fonction du scénario, j'ai juste quand même malgré tout c'est un super chouette film, mais une faiblesse de scénario. Tu vois, s'il avait par contre eu
une faiblesse de scénario, pour moi c'est une incohérence,
ouais,
c'est quelque chose comme ça. Mais là, c'est y a pas du tout de faiblesse. Ça peut être le scénario, ça peut être un
simple,
super
quoi.
Film, deux mecs dans une pièce, un huis clos. Tu vois, on pourrait dire scénario. Non, mais voilà, on pourrait dire scénario merde. Et il y a des huis clos.
Deux mecs dans une pièce qui sont muets, aveugles.
Non,
c'est
mais
un
d'accord.
Super film.
Si on le prenait au sens inverse, peut-être que s'il avait un scénario un peu plus travaillé, il serait d'autant mieux.
Ah non, bah, je suis pas d'accord.
Ah si.
Pour moi, la force du film, c'est vraiment le scénario épuré, voilà, juste une course-poursuite, et tout ce trame autour de ça, les effets spéciaux, les acteurs, et tu mets un scénario complexe avec des rebondissements, bah ça devient un film lambda, le film de producteur à la con. Là, il a été au bout de son idée, et c'est ça qui rend le film top, quoi. Enfin, c'est mon avis,
oui,
mais
non,
je pense
non,
que
mais
les gens le partagent,
mais,
parce que le film a de très bons retours.
En attendant, t'as plusieurs corps de métier, je veux dire... faut quand même les juger, hein, non?
Bah, je suis d'accord avec toi sur le scénario,
oui,
sur
le scénario, je le trouve cool.
Sur le fait qu'il n'y ait pas énormément de rebondissements.
Il est simple. J'ai pas dit qu'il était nul, j'ai dit qu'il était simple.
Ouais. Mais il y a quand même un super background avec des personnages qui sont bien écrits.
Par contre,
ça fait partie du scénario aussi. Donc voilà, donc
l'univers étendu.
Donc voilà, moi vous avez compris un petit peu mon avis. Je suis assez d'accord avec vous. C'est un super film.
T'as pas aimé, ok.
Si, je suis en train de dire que j'ai bien aimé. J'ai adoré ce film, je vous le recommande.
Il est pris en aparté, quoi. T'as pas aimé,
Même si on est en 2019 et comme vous pourriez le sous-entendre, c'est pas très bien fait. Enfin, c'est moins bien fait qu'à l'époque, mais moi j'ai pas trouvé, hein. Franchement, les
c'est
effets.
C'est moins bien fait qu'à l'époque.
Bah, Tristan disait ça, quoi. Enfin, c'est moins
si,
bien.
C'est quand même...
On voit plus les effets spéciaux que, qu'à l'époque on aurait pu les voir. Enfin. Ce que je veux dire. Okay,
est-ce que c'est mieux fait que l'autre, le truc avec le. Qu'on a regardé là. Ah putain.
Jack Burton.
Merci.
Ah, c'est mieux fait que Jack Burton, quoi.
Ah voilà. Ouais. Donc c'est mieux fait.
Bah, on est sur ce même style d'effets spéciaux, c'est vrai.
Oui, oui.
Un petit mélange
style,
de marionnettes, de maquillage.
Maquillage.
Dans tous les cas, non, moi j'ai vraiment adoré. Je vous le recommande. Il y a des super personnages, des décors de dingue, une musique de dingue, un scénario de dingue. Non, vraiment, je vous le recommande. Et moi je mets.
Cinématographie
comme
de fou.
Un 5,5 sur 6.
Ah, très bonne note.
Pourquoi vous mettez pas 6 là? Vous avez mis 5,5 chacun.
La perfection n'existe pas. À part Jour de tonnerre.
Bah, je sais pas. Il y a d'autres films où je pourrais mettre 6. Là, c'est déjà énorme comme note, quoi. Voilà.
C'est énorme. Ok.
Et voilà pour notre avis. On va tout de suite passer aux rubriques. Et on va commencer par celle de Tristan, les anecdotes.
Ouais.
C'est parti.
Oh, de Dieu.
Enfin, comme je te disais. La crevette, c'est le fruit de la mer. On la fait au barbecue, bouillie, grillée, rôtie, sautée. T'as la crevette kebab, la crevette créole. Oh, c'est à peu près tout.
Les anecdotes. On va commencer par le classique box-office. Enfin, d'abord le budget. Combien pour le budget? Je sais pas, vous avez une idée?
Oh, ça doit être cher.
Un petit 30.
Avec le scénario, je vais te dire, ils ont passé des heures.
25-30
dollars?
Millions de dollars.
Ouais, c'est juste, c'est 32 millions de dollars. Et box-office, d'après vous?
Le double?
Ou le triple?
Ouais, non, plutôt proche du double, c'était 60 millions de dollars. Apparemment, ça c'est que aux États-Unis, donc je pense que dans le monde il a peut-être fait un peu plus.
Worldwide.
Worldwide, il a dû faire peut-être 80 millions. Donc voilà pour.
Tu dis ça comme ça, quoi. Attends,
c'est des sources sûres, ça sent la tête.
Franchement, c'est pointu.
Je vais citer mes sources. Mes sources sont IMDb. Et sur IMDb, c'est précisé que c'est le box-office US. Donc, j'ai essayé de trouver le worldwide et j'ai pas trouvé. Voilà, pour la petite histoire.
On parlait plus du worldwide.
Putain, s'il faut se justifier à chaque phrase ici, là, fou.
Bah oui, on n'est pas là à enfiler des perles comme Didier.
Alors.
Un podcast sérieux.
Bon bah je pars. L'acteur qui joue Willow, Warwick Davis, il avait 17 ans pendant le tournage, petite anecdote. Ouais. Donc il était plutôt petit pour son âge.
Non. Mais non.
Pardon. Non, je la refais pas, promis.
N'importe.
Donc ce film s'agirait du film avec le plus grand casting de nains.
Bah oui. Non.
Et donc il y avait entre 225 et 240 acteurs embauchés pour faire les nains. Donc on l'a pas précisé, mais la population de nains dans le film est donc jouée par des nains, en fait, des vrais nains.
On voit que c'est des vrais nains.
Ça se dit ou quoi, des vrais nains? Par des... Ouais. Bah, des personnes avec le syndrome du nain.
Mais non, parce que, par exemple, des Nelwyn dans le film sont atteints de...
Mais non, mais...
Les hobbits dans le Seigneur des Anneaux, c'est des personnes...
Ah, mais les hobbits sont des personnes réduites, sont pas des nains. Par contre, les nains dans le Seigneur des Anneaux sont pas joués par des nains.
Ouais, c'est ça, ouais. Okay.
Donc Gimli n'est pas un nain, c'est un mec d'un mètre 80.
Non, il y a des hobbits et des nains dans le Seigneur des Anneaux.
Oui, je voulais dire, mais les hobbits, ils sont des personnes de petite taille. Mais
ils sont plus petits, mais ils sont pas nains.
Oui, mais ils ont une taille normale en vrai, les acteurs.
Quoique l'acteur principal,
c'est...
il a l'air...
Ouais, c'est ce que j'ai dit. Elijah Wood, je crois qu'il est assez petit.
Il fait ta taille, quoi.
Elijah Wood, il est petit.
Donc c'est pas une blague, c'est un des films qui a le plus grand casting d'acteurs nains.
Moi, je me suis posé la question en voyant le film, parce qu'il y a, oui, comme tu l'as dit, il y a 200 acteurs nains, mais c'est chaud, quoi, pour avoir des rôles quand t'es un acteur nain. Ben, je me suis dit, est-ce que c'est des vrais acteurs où ils ont lancé genre un appel?
Ben, ils ont lancé
un appel.
Vous êtes
nain, vous voulez tourner dans un film, parce que ça doit pas être des vrais acteurs, tu peux pas te recaser.
Ah, mais il y a une catégorie de films spécialisés dans les nains, hein. Le Bollywood des nains.
Hein. Je pensais que t'allais parler
d'une catégorie sur certains sites douteux d'internet.
Du darknet.
Oui, non, mais je pense qu'ils ont lancé un appel. Mais d'ailleurs, enfin, l'acteur principal a fait plusieurs autres films après, et il a fait une apparition dans Harry Potter, justement. Voilà.
Ah ouais. Ouais. Et je pensais qu'il était mort.
Il jouait un géant dans Harry Potter.
C'est vrai?
Non.
Ça aurait pu.
Bref.
Cette fois-là.
Anecdote suivante.
Est-ce que Peter Dinklage jouait dans Willow?
Alors ça y est, tout de suite il y a des nains. Forcément, il y a le nain de Game of Thrones.
Mais il était pas né à l'époque, si?
Bon, quand même.
Oui. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. On a parlé du morphing et donc c'était le premier film qui utilisait cette technique donc de transformation à l'ordinateur. Il y a la scène où tout le monde est transformé en cochon. En fait, ils ont eu des problèmes sur le tournage parce qu'ils essayaient de se reproduire, les cochons. Et pour éviter ça, ils avaient mis de l'eau froide un peu partout. A priori, ça les arrête. Je sais pas si... Voilà. Si vous avez des cochons chez vous, utilisez cette technique. Si vous avez Neymar.
Du jambon.
Et je pense que c'était tout ce que je voulais vous dire. Oui, c'est tout.
Tu penses ou t'es sûr?
Bon, t'en veux une autre?
Ouais, j'en veux une autre.
Non, j'en ai pas d'autre.
Eh ben, je te remercie Tristan pour cette rubrique très bien préparée. Et on va passer à une autre rubrique très bien préparée. C'est la mienne. Ça va être l'actualité musicale des années 98, comme dirait notre ami Tristan. Bah non, pas 98, 88, je suis con. Je sais même pas le dire.
Bah tu peux dire 88 alors. 88.
88. Et ben c'est parti.
La farce, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
Alors, en 1988, en France, le tube numéro 1 de décembre 88, c'était celle-ci.
Ce paysage s'est démêlé de côté. j'étais jamais la toute des places sous ton petit oreiller. À jamais je suis ton unique classe, tout n'est que prix à payer. Tu fais des arpibos derrière ton ouvrage comme un petit pantalon. Tout boué de dos sans perdre courage.
Voilà, vous avez reconnu Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce. Et maintenant, on va passer au Billboard des États-Unis, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui vont vous dire quelque chose. Et on va tout de suite écouter la numéro 1 de l'année 1988 du Billboard des États-Unis. Et la voici! Face de George Michael, la numéro 1 de 1988. Sinon, je vous ai fait une petite sélection de d'autres musiques du top 50 des États-Unis. Et on va tout de suite passer à une que tout le monde connaît. C'est devenu un mème sur les internets. C'est parti! Gonna Give You Up de Rick Astley. On va passer à la numéro 5 de 1988. Je pensais qu'elle était un peu plus au-dessus, mais je pense que c'est parce que le single a dû sortir plus tard. C'est Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Je pouvais pas vous quitter sans passer un Guns N' Roses. We'll be right back. voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette actualité
expédiée
vous a plu. On se retrouve plus tard. Pour l'instant, on va passer à la rubrique de Dimitri qui nous a concocté un petit jeu. C'est parti, c'est à toi, Dimitri.
Bon. Donne-moi les dés, tu peux rentrer chez toi. Tu n'es pas obligé de jouer.
Merci, Alan. Oh, oh mon Dieu, comment tu peux faire ça? Oh.
C'est la loi de la jungle, Sarah. Tu t'y feras.
Alors, pour ma rubrique, j'ai décidé de vous faire un petit quiz sur les films. Alors, les films dans lesquels il y a un ou plusieurs nains, voilà, qui sont au casting.
Superbe thème.
Des Smarties.
Des Smarties.
On parle bien de nains, on parle pas de Lilliputiens, hein.
On parle de nains.
Ok.
Parce que les Lilliputiens n'existent pas, Tristan. Ok.
Ah non, mais oui,
sous mon lit.
Oui, mais dans les films, ils existent, donc je me dis, voilà.
Alors, c'est...
Zéro magie dans ce
ça. Ça peut être une grosse... voilà, un vrai rôle ou juste une apparition.
Ouais, attends, faut que ce soit une apparition évidente quand même, non? Le gars, il va nous mettre...
Non. Non, non, ça peut être juste une apparition, c'est ça qui fait le sel de cette
générique,
de ce quiz. Et justement, si vous ne voyez pas le de nain dans ce film, vous pouvez revoir le film et vous dire, c'est un peu où est Charlie, où est le nain, et vous le savez, voilà.
C'est bien, c'est...
Chercher le nain.
C'est... Ouais, c'est...
Alors, je vais vous faire le scénario figures, en bip. Donc, pour trouver le film, je vais vous faire là, à chaque fois le scénario en bipant certains mots-clés. Et vous me direz quel est le film.
Yes, c'est parti.
Alors, bip de retour s'est fait dépouiller de son maigre bien. Suivant le voleur, il arrive à la ville du Troc, où règne Entity. Celle-ci l'engage pour qu'il la débarrasse de Master et Blaster, roi du monde souterrain. N'ayant voulu tuer Blaster, bip est abandonné en plein désert, d'où il ressurgit à la tête d'une troupe d'enfants pour faire exploser la ville du Troc.
Alors là,
Dune.
Oh, vous êtes vraiment nul parce qu'on en a parlé dans le podcast.
Je vois pas du tout. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Donjons et Dragons? Non, c'était pas ça.
Non.
C'est le film dont on a le plus parlé dans le podcast, à part Willow.
Mad Max.
Ouais, mais
Fury Road.
Non. Mad Max. Mad Max.
C'est 3. Fury Road qu'on a parlé.
Mad Max 3. Au-delà du tome du tonnerre. Du tome du tonnerre.
Ouais, bah attends, toi tu peux le donner à Joe, il a dit Mad Max. J'ai rien trouvé moi.
Vous... Mais j'y étais pas parce qu'en fait, ville du Troc, tout ça, ça me semblait enfantin.
Oui, vous vous rappelez pas dans Mad Max 3, il y avait toute une ville, machin, avec Tina Turner. Enfin, les gars, vous me décevez beaucoup.
Et pourquoi c'était quoi, Bip? Ah oui, c'est.
Mad Max. Mad Max.
Ok, d'accord.
Un peu plus compliqué.
Oh.
Là, c'est pour les cinéphiles. On va voir si vous en êtes.
Ok, on passe. Joker.
j'en suis pas.
Ah, moi non plus.
Allez, c'est parti. La nuit, un garçon est visité par six nains, ayant volé à l'être suprême la carte du temps. L'enfant s'engage alors dans un voyage à travers l'histoire.
Putain, je sais sûr. Ah, c'est Time Bandit.
C'est-à-dire en français?
C'est Time Bandit de... Ah putain, en français. Mais non, mais t'as pas le droit, ça. Time Bandit, quoi.
Mais oui, c'est ça. Franchement, bien joué. On reconnaît les cinéphiles. Enfin, le cinéphile.
Bien joué.
C'est Terry Gilliams, non?
Mais ouais.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Ouais. Je
bien joué, Tristan. Tu mérites bien ton point, là.
2 points. Parce que c'est pour les cinéphiles.
Alors, prochaine question. Alors, le résumé, c'est... Le théâtre ambulant du docteur Bip transporte ses invités dans leur propre imagination. Mais il leur propose un choix difficile à la fin de ce périple.
Neverland?
Non, c'était avec entre autres un acteur décédé aujourd'hui. Et du coup, dans le film, ils ont dû, comme il est décédé pendant le tournage, c'est un autre acteur qui joue son rôle, mais à la fin du film, enfin, il y a 2 acteurs différents pour le même rôle.
C'est un Harry Potter, non, le vieux là qui.
Il y a Docteur dans le titre du film.
Mais oui,
le titre est compliqué.
C'est encore un Terry Gilliam, ça, non?
C'est ça. Il aime bien les nains.
L'imaginarium du Docteur. Ah!
Ouais, je te l'accorde. Du docteur Parnassus.
Ah, purée. Ça, c'était...
Il est fort, ce Tristan.
Bien joué.
Prochaine question, ça fait 2-1 pour Tristan. Depuis un siècle, la sorcière blanche, a plongé Bip dans l'hiver. Mais une prédiction révèle que 4 enfants aideront Aslan à rompre la malédiction. Non.
Aslan à rompre la malédiction. Je comprends pas la fin de ta phrase.
Mais une prédiction révèle que 4 enfants aideront Aslan, c'est un personnage, j'imagine,
ah oui, d'accord,
à rompre la malédiction.
Et c'est plus simple.
Bah, c'est connu, mais moi, c'est vraiment un film pour enfants et on est. J'imagine. À l'époque où il est sorti, on était plutôt ados. On avait 18-19 ans. Donc,
c'est un Disney?
Non, je pense pas que ça soit produit par Disney. Je suis pas sûr.
Ah! C'est pas Narnia?
Bien joué!
Cinéphile!
Voilà, c'est serré ce quiz! Deux partout! Alors là, c'est plus compliqué parce que par exemple, je ne me souviens pas qu'il y a un nain dans ce film.
Ça commence bien.
Non, mais t'as pas droit, les nains figurants, c'est interdit ça.
Non, c'est moi qui fais les règles.
Non.
Deux tueurs à gages se réfugient à Bip, fuyant Londres après un assassinat qui a mal tourné. Leur boss demande à l'un d'exécuter l'autre.
In Bruges.
Yes, baby.
C'est ce que j'allais dire. Bon baiser de Bruges. C'est pas à Londres.
Non, mais si tu m'avais écouté, fuyant Londres.
Londres et ils arrivent à Bruges.
Et j'ai bipé Bruges.
Si. Pourtant, j'ai pensé
à Bruges. Si, il y a un nain là-dedans.
Ah, c'est Colin Farrell, il est pas très grand.
Oui, mais c'est ça.
Mais non. Mais je me demande justement si c'est pas le nain de Game of Thrones.
Ah, c'est possible. Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
Et il se fait tirer à coups de balle à blanc dans l'œil. Puis il fait, ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est le mec qui fournit de la drogue à Colin Farrell, justement.
Trois prisonniers s'évadent d'un bagne dans les bas-fonds du Mississippi. Ils doivent retrouver la liberté avant
d'être
attrapés par le shérif. Collé. Et c'est une victoire contestée de Tristan, bravo!
Bravo Tristan, bravo!
Tu l'as mérité avec les deux Terry Gilliam.
Vous voyez que le Skype, ça me perturbe là. Tu vois, quand on est trois, ça, je gagne forcément.
Mais qu'est-ce que tu racontes?
Ouais, tu t'emballes un peu là.
Ouais, c'est bon. Ouais.
Évidemment, je m'emballe un peu.
Eh ben, merci Dim, c'était un très chouette jeu.
Oui.
On va se quitter là-dessus. C'est la fin de l'émission. Là, vous êtes censé faire « Oh non !
Oh non !
Oh, pas déjà ! Oh, là, là !» En plus, il y a qu'une heure d'émission, c'est aussi. Hein. Et alors, où est-ce qu'on peut nous retrouver, Dimitri ?
On peut nous retrouver au Café du Coin, à Rennes, au Mail. Non, on peut nous retrouver... On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook, si vous voulez nous envoyer un petit message ou faire part d'un commentaire. Vous pouvez aussi nous écouter donc, sur toutes les plateformes de podcast, c'est-à-dire Deezer, Spotify, PodCloud et sur lendemaincult.lepodcast.fr. Et c'est à peu près tout.
C'est à peu près tout. De toute façon, il suffit de taper lendemaincult sur Google ou n'importe où et vous allez nous retrouver.
On est très bien référencés.
Top result.
Alors, le film de la semaine prochaine, c'est Fanny qui doit le choisir. Elle nous a transmis ses vœux. Non, c'est un... enfin, de souvenirs que j'ai, c'est un bon film. C'est Entretien avec un vampire.
Ah oui.
Ouais, tu devais kiffer, toi, c'est avec Tom Cruise.
Ouais.
Ah, il a déjà la demi-molle.
Tom Cruise qui fait que des bons films. Meilleure filmographie de l'histoire.
Voilà, voilà. On va se quitter là-dessus. On vous fait de gros bisous. À la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Merci de nous avoir écoutés. Ciao, ciao. Yeah.